Soyez les bienvenus avec Leïla Kadhafi.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Albert Algou.
Bonjour à tous.
Charlie Albert.
Il est beau Albert.
Et notre invité est le prix Goncourt 2016. On est trop fiers. Leïla Slimani.
Oh oui. Oh oui.
Et j'espère que vous allez bien, Leïla, bienvenue.
Merci, oui, je vais très bien.
Ravi de vous accueillir dans cette émission, nous allons parler...
Depuis le temps qu'on vous voulait.
Un peu, ouais.
Eh bien, ben voilà.
Il faut se battre maintenant.
Oui.
Il faut se battre. Bon, on l'a pas eu pour Chanson douce, elle a pas voulu venir.
Non, c'est pas.
Mais qui a réglé compte à l'antenne.
C'est ce que nous a dit la maison d'édition.
Non, c'est pas vrai. Elle a pas eu le temps et on s'en est si mal pris.
Mais nous allons parler de ce 6e festival Paris des femmes. C'est au théâtre des Mathurins les 6, 7 et 8 janvier. J'espère que vous avez bien compris, Maréchal, pourquoi nous avons invité Leïla Slimani.
Affirmatif, mon cher Nagui. Parce qu'il était temps que nous saluions, comme il se doit, avec respect et admiration, la lauréate du dernier prix Goncourt, vous venez d'évoquer à l'instant, récompensée pour son remarquable roman « Chanson douce ». Une chanson douce que me chantait ma maman.
Oh, je continue. Oui. Sauf que c'est beaucoup moins doux que la chanson.
Oui, bien sûr, c'est même terrible. Ensuite, mais il faut lire le livre. Ensuite, parce que Leïla Slimani, bonjour Leïla.
Bonjour.
Est une des 10 auteurs. Participant au festival Paris des femmes, qui favorise la création théâtrale au féminin, qui est encore trop peu représentée, puisque selon une étude réalisée par la SACD, seulement 24% des textes joués en 2016 ont été écrits par des femmes. Ben oui, bande de chiffres molles, il y en a un qui bosse dans cette émission, en l'occurrence, c'est moi. Et puis, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, Nagui, je vous cite, « Invitez Leïla Slimani, ça apaisera peut-être les aigreurs de notre Leïla à nous, Leïla Kadhafi, qui ne loue pas une occasion de nous bassiner avec ses rengaines féministes. Pour une fois, elle ne pourra pas me reprocher, moi, Nagui, comme elle le fait sans arrêt, d'avoir fait preuve de machisme. À croire que c'est vraiment une obsession de gonzesse, ces trucs-là. » Cette année, voilà, c'est comme a dit Nagui. Cette année, et là je reprends.
On vous sortez de mes pensées pour revenir.
Vos pensées les plus intimes.
Bien sûr.
Je suis votre confident, vous le savez.
Tu parles.
Je suis en CDI en plus. Cette année, dans ce festival Paris des femmes, le thème soumis à 10 écrivaines qui doivent écrire une pièce courte est scandale. J'avoue que ce mot m'a fouetté les sens et m'a fait chaud à la gueule parce qu'il m'a rappelé la gaine du même nom, une gaine scandale couleur saumon que mon épouse Edmond l'a regretté, Maréchal Ganache, portait par-dessus sa culotte fendue. Quant au festival Paris des femmes, là aussi cette appellation m'a reporté à l'époque où j'ai rencontré Edmond. C'était en 1954 en Indo. Dans un cabaret du quartier chinois de Saigon, le Gang Bang Phoc, tenu par Madame Bong Turlut. Edmond était la meneuse de revue d'un spectacle intitulé Paris des femmes, où se produisaient aussi les effeuilleuses Lola Schlickschlack, Betty Bissex et Pamela Dargif. Ah, ça, comme le disait encore Nagui, dont je me flatte en quelque sorte, je le disais à l'instant d'être le confident, le festival pour lequel vient Leïla Slimani, c'est beaucoup moins rose que ne l'était la gaine de votre épouse. Je peux même vous dire que son texte, Le ventre des femmes, c'est pas top à la déconne. Trois femmes se retrouvent dans la salle d'attente d'un médecin à Casablanca pour y rechercher leur salut, un moyen d'éviter le scandale, le déshonneur, la mort peut-être. Et encore, comparé au texte de Christine Angot, Ariane Ascari, d'Aurore Auteuil ou Nancy Houston, la pièce de Leïla Slimani, c'est carrément du Max Pécasse ou du Jean Rocasse. Et vos paroles, Nagui, force mais de le reconnaître, étaient pleines de sagesse. Et
elles ont, pour une fois,
l'air de rien, le plus bel éloge qu'on puisse faire de ce ventre des femmes. Et de mon côté, je dois reconnaître qu'après la lecture de ce texte, en sortant me soulager dans la rue, poussé dans mon fauteuil roulant par mon auxiliaire de vie marocaine, la seule personne qui, eu égard à la gravité de mon handicap que vous connaissez, accepte de s'occuper de moi, je me suis dit que j'avais une sacrée chance de vivre en France et je me suis mis à hurler « On est chez nous ! On est chez nous !»
Merci Maréchal.
Sur France Inter.
Scandale donc Leïla, mais vous aimez bien, je comprends que vous avez dû extrêmement bien réagir lorsque Anne Rothenberg vous a contacté en vous demandant de participer à ce projet autour du mot scandale, parce qu'il y en a quand même plusieurs dans Chanson douce. D'ailleurs, quelle est la définition pour vous du scandale? Le terme n'est employé qu'une seule fois, si j'ai bonne mémoire dans votre livre, c'est peut-être pas un mot que vous aimez écrire. le mot de scandale, mais le seul scandale que vous évoquez dans Chanson douce, c'est celui d'une d'une nounou qui subirait les cris de l'enfant qu'elle doit garder au milieu du jardin d'enfants et de subir la honte et la réprobation de la part des autres nounous ou des mamans qui seraient autour. Ah, quel scandale si une nounou n'est pas gentille avec ses enfants. Bon, là c'est...
Oui, le scandale finalement, c'est pas un mot que j'ai besoin d'écrire parce que ça doit être une évidence. En tout cas, en littérature, le scandale, on n'a même pas besoin de le dire. Il doit s'imposer, il doit être évident. Le scandale, c'est ce qui sort de la norme, ce qui sort de ce qui devrait être, de comment ça devrait se passer. Donc c'est voilà ce qui met en péril l'ordre des choses. Et évidemment, la femme très souvent est objet de scandale puisqu'elle met en péril par sa sexualité, par son mode de vie, par sa liberté, par son langage. Elle met en péril l'ordre masculin des choses.
Donc pour vous, l'originalité peut être une forme de scandale ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouvais très très intelligente de la part des organisateurs d'associer le thème de scandale à l'écriture féminine, parce que je trouve que c'est très lié, voilà.
Alors, les auteurs qui ont accepté de participer à cette sixième édition sont Christine Angot, Ariane Ascaride.
Ah oui, Ariane Ascaride.
Aurore, ben, sympa pour Christine Angot.
Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure?
J'adore Aurore, Ariane Ascaride.
Aurore Auteuil, Sylvie Germain, Brigitte Giraud, Nancy Houston, Salomé Lelouch, Isabelle Monin, Marie Nimier et donc vous, Leïla, vous arrivez et par politesse à la fin et aussi par ordre alphabétique à la fin de cette longue liste. L'exercice n'est pas exactement le même pour chacune. On vous a demandé quoi ? D'écrire un minimum de rôle. Il ne faut pas qu'il y ait trop de personnages et il ne faut pas que ça dure trop longtemps, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On avait des contraintes, donc on avait un nombre de signes, je ne me souviens plus combien, mais enfin bon.
Une trentaine de pages ?
Oui, c'est ça. C'était une trentaine de pages. Il fallait que ça dure en tout à peu près une demi-heure. Ça pouvait être un monologue ou ça pouvait être un dialogue, mais pas plus de trois personnages. Donc on avait quand même des contraintes importantes ajoutées à la contrainte de l'écriture théâtrale, qui est une écriture que moi je ne connaissais pas, à laquelle je m'étais jamais frottée et qui est très difficile.
Et c'est la première fois de votre vie que vous passez en 3D?
Voilà, c'est la première fois de ma vie que je passe en 3D, que j'entends mon texte dit comme ça, parce que bon, les romans, il y a parfois des lectures à haute voix, mais c'est pas du tout la même chose. Là, c'est incarné vraiment par des gens, donc c'est assez passionnant et puis très émouvant.
L'exercice que vous avez choisi est celui de s'intéresser à l'interruption volontaire de grossesse, ou du moins à la forme de scandale qui est être enceinte au Maroc et devoir se faire avorter en cachette, et ça se passe dans une salle d'attente d'un médecin.
Voilà, ça se passe dans la salle d'attente d'un gynécologue dont on comprend très bien qu'il est également avorteur, donc ce qui est illégal au Maroc. Avorteur, mais aussi, c'est aussi l'homme qui fait des réfections d'hymen, etc. Donc autour de cet homme, qui permet aux femmes de retrouver leur virginité, mais dans le sens littéral du terme, se joue un scandale.
Et alors, pourquoi cette histoire ? D'où, pour quelle prise avec
elle n'aime pas
le
les enfants, en tout cas, entre l'infanticide de Chanson douce et l'IVG.
C'est ce que m'a dit le journaliste hier. En plus, je suis enceinte. Elle me dit, mais c'est vraiment quand même bizarre.
Vous avez un problème avec les enfants?
Donc, il y a un truc, je sais pas. J'arrive pas à regarder ce problème en face. En tout cas, on verra.
En tout cas, dans ce texte, vous confrontez deux femmes qui viennent de milieux très différents, qui n'ont pas du tout le même itinéraire. On va pas dévoiler le contenu du texte. Mais alors, pourquoi ce sujet? Pourquoi ça vous tenait à cœur?
En tout cas, il y en a une qui est riche et dans un milieu aisé. L'autre
de milieu
qui
est de la populaire,
campagne.
Voilà.
L'autre qui vient de la campagne
voilà, qui a encore la boue sur ses chaussures,
oui.
et l'autre qui sort, oui, en l'occurrence, qui vient de voir le docteur. C'est ça, les trois personnages.
Voilà, et déjà, ce qui m'intéressait aussi, c'est comment dans ces cabinets de gynécologie, là où on se fait avorter, finalement, tous les milieux sociaux se retrouvent, parce qu'on se retrouve tous au même niveau, oui, à égalité face à cette question du corps et de comment se débarrasser de l'enfant dont on ne veut pas, même si les contraintes ne sont pas les mêmes.
Et voilà. On ne se parle pas, normalement.
On ne se parle pas. Ouais. Mais ce qui m'a intéressée dans ce sujet, d'abord, c'est le fait que moi, je me suis toujours intéressée à la question du corps des femmes. Qu'est-ce que c'est le corps des femmes dans la société? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est qu'être une paria pour une femme? Qu'est-ce que c'est que la marginalité sur le plan sexuel, sur le plan du corps, voilà. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et ensuite, parce que j'ai travaillé là sur un essai que je publie en septembre aux Arènes,
Sexe et mensonges,
voilà, qui s'appelle Sexe et mensonges, et que en discutant avec les femmes au Maroc, la question Tout simplement du vagin, j'allais dire, c'est-à-dire de qu'est-ce que c'est qu'avoir un vagin, donc d'avoir un hymen, d'être vierge ou de n'être pas vierge, de pouvoir tomber enceinte ou de ne pas pouvoir tomber enceinte, est déterminant dans leur vie, dans leur destin, parfois les amène à devoir quitter leur famille, quitter leur région, parfois être victime de violences, parfois à mourir, et ces histoires d'avortement, ces histoires de cabinets médicaux, je les ai entendues, c'est-à-dire que ce que je raconte dans la pièce, ça s'est vraiment
passé.
C'est
malheureusement du vécu.
Oui, c'est du vécu, donc j'avais vraiment envie de donner une voix à ces femmes qui ne peuvent jamais parler de ça. Parce que c'est ça aussi le scandale. Le scandale, c'est ce qu'on empêche de dire, ce qu'on vous dit de ne pas dire, ce que vous devez cacher, c'est le secret. Et donc ces femmes-là souffrent non seulement de cet acte-là, mais de ne jamais pouvoir confier ce qui leur est arrivé.
Alors, trois femmes se retrouvent dans ce cabinet d'un médecin, sauf que moi, je n'ai que deux comédiennes.
Ah ben, il y a un problème, si vous avez que deux comédiennes, parce qu'il y en a trois.
J'ai Sarah Martin et Samira Sedira.
Et oui, il en manque une autre, Malika. Là maintenant, son nom m'échappe.
D'accord, bon, on va le retrouver, oui. Pardon. D'accord, ok.
Voilà.
Donc il y en a une troisième, ça me rassure. Il y a d'autres pièces. J'ai Aurore Auteuil qui signe aussi ce texte qu'elle lira, qu'elle interprétera en fait, qui s'appelle Patricia, l'histoire d'une DRH d'une société immobilière. C'est presque une forme de poésie d'ailleurs, la manière dont elle l'a écrit, qui est devenue maman sans le vouloir au détour, avec une chanson de Barbara. Tout ça est autour de l'absence de l'amour. Une pièce de Nancy Houston qui s'appelle 5h19, à plusieurs de Salomé Lelouch. Il y a Isabelle Monin qui a écrit Chaque seconde est une poignée de terre. Une autre, moi, qui m'a bouleversé, c'est Le jour où Maud a sauté, de Brigitte Giraud, avec Nicolas Briançon et Bénédicte Choinet, sur l'histoire d'une adolescente qui se suicide, enfin qui saute finalement de sa classe.
Et c'est sa copine qui est son amie.
Ouais, alors bon, on va pas dire le pourquoi du comment, mais c'est vrai que le suicide chez les adolescentes est quelque chose de totalement, on a un sentiment d'injustice, d'un gâchis, et ça rejoint aussi celles qui se suicident parce qu'elles sont enceintes et qu'elles ne peuvent pas avorter aussi, ou qui se détruisent tellement qu'elles mettent en péril leur vie et leur santé. Mais ce texte-là, il est extrêmement fort, et j'ai envie de dire, le résumé se retrouve aussi dans le titre de la pièce de Marie Nimier, c'est-à-dire le vrai scandale, c'est la mort. Parce que il y a évidemment autour du scandale toujours le sexe, vous parlez du corps de la femme, mais il y a toujours la mort qui est présente d'une manière ou d'une autre. Soit dans l'avortement, soit dans le suicide, soit dans la solitude.
Le vrai scandale, effectivement, c'est la mort, c'est notre finitude, c'est l'absurdité de notre condition. Et puis l'autre grand scandale aussi, c'est le manque d'amour, l'absence totale d'amour, de véritable compassion. C'est l'indifférence aussi auquel beaucoup de ces femmes sont
mais
confrontées.
Alors là, on est d'accord qu'on retrouve Louise
complètement,
votre roman, c'est-à-dire que c'est le problème du regard de l'autre, de la place que l'on a dans la vie de l'autre et de l'amour.
Oui, bien sûr, ça c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, ouais, bien sûr.
Le fait de se retrouver pour la première fois sur scène et en troisième dimension, pour reprendre cette expression, en étant honoré d'un prix Goncourt, légitime, mérité. Je me souviens que Leïla avait été la première à me parler de votre roman, et c'était Philippe Labro aussi qui nous avait dit mais quelle perle, quel bijou, avant qu'il y ait ce succès, et tant mieux d'édition, parce que je crois que vous êtes à un demi-million d'exemplaires déjà vendus, et ça ne va pas s'arrêter, parce qu'on vous encourage vraiment à lire Chanson douce, même si vous avez des enfants, même si vous avez une nounou. Mais c'est très intéressant.
Surtout comme ça, vous serez prévenu.
C'est passé.
On ne va pas dire, je ne savais pas.
C'est passionnant, c'est vraiment passionnant, et tellement bien écrit, surtout. C'est mené comme une enquête, comme une espèce de Columbo. J'ai envie de dire pardon pour la comparaison, mais on sait déjà ce qui s'est passé.
J'aime beaucoup Columbo.
Voilà. On sait déjà ce qui s'est passé, et après, on revoit finalement les traits de caractère de chacun des personnages, et on suit l'enquête presque si on était à la place de Nina, l'inspectrice.
On devient un enquêteur presque soi-même, quoi. C'est-à-dire
pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête.
Le lecteur est celui qui en sait le plus.
Ouais, non, c'est vraiment fort. Le fait donc de se retrouver en 3D. pour en revenir à la question d'il y a un quart d'heure, est-ce que ça vous fait peur d'être également jugé comme étant le prix Goncourt qui écrit sa première pièce d'une demi-heure?
Non, parce que je suis pas le prix Goncourt, c'est-à-dire que je ne me regarde pas comme ça. Moi, je suis Leïla Slimani, quoi. Donc j'écris un texte, les gens écoutent le texte, il y a des gens à qui ça plaira, à qui ça ne plaira pas. J'ai envie de rester qui je suis, de ne pas me statufier ou me raconter une histoire sur moi-même, quoi. Les gens, de toute façon, jugeront.
Vous l'aviez écrit avant, de toute façon?
Je l'avais écrit avant, non, parce qu'on l'a rendu il y a quand même assez longtemps. Je l'ai rendu en septembre, donc je l'avais écrit avant. Et puis j'ai pas du tout envie de me regarder comme ça, comme une espèce de statue de commandeur. Puis je vais continuer à écrire le plus de livres possible, j'espère. Et je ne veux pas m'enfermer là-dedans, parce que sinon ça va me brider, et puis je vais avoir peur du jugement des autres. De toute façon, écrire, c'est avoir peur. On a toujours peur quand on écrit. Donc je veux garder la peur dans ce qu'elle a de sain et d'exigeant et d'important, mais pas dans cette vision-là.
Eh bien, vos propos résonnent avec le contenu de la pièce d'Ariane Ascari, French Cancan, où une femme doit rendre un texte et elle est confrontée à ses peurs, à la peur de décevoir, à la peur de ne pas être à sa place, à la peur d'être jugée. Et c'est aussi, quand on parle de scandale sur la situation de la femme, c'est l'estime d'elle-même qu'elle perd au fil des représentations sociétales qui lui font dire qu'elle n'est pas capable et qu'elle n'a pas sa place à prendre, et par conséquent, elle ne la prend pas et elle est toujours reléguée au deuxième rôle.
Est-ce que le...
C'est mon truc militant du moment.
Là, c'est très quoi. Bien.
Mais c'est pour ça que j'ai toujours un petit silence pour donner encore plus de poids aux propos.
Vous sonnez de ce que je disais dans mon introduction.
Oui, les femmes. Et c'est Malika Louakaïrim, la troisième comédienne.
Très bien, merci pour l'investigation et surtout pour lui rendre ses lettres de noblesse. Y a-t-il pour vous, lectrice, une véritable différence entre l'écriture masculine et l'écriture féminine?
Bon, ça c'est une grande et vaste question. En fait, moi je pense que les femmes écrivent comme les hommes, c'est-à-dire qu'elles sont d'aussi bons écrivains que les hommes, qu'en termes de forme, elles écrivent
que les hommes sont aussi bons que les femmes.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, à l'époque, quand une femme est à l'époque surréaliste, les femmes sont surréalistes comme le truc, elles sont romantiques quand les hommes sont romantiques, elles épousent des grands mouvements littéraires, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. En revanche, je pense qu'effectivement, les femmes investissent des sujets et investissent des pans de la vie quotidienne ou de la société que les hommes pendant longtemps n'ont pas investi, qu'il y a des sujets qui ont longtemps été considérés comme des sujets de bonnes femmes, c'est-à-dire pas très nobles, pas littéraires, qui aujourd'hui sont en train de gagner leur lettre de noblesse. Il faut quand même se souvenir que pendant des siècles, les femmes n'ont tout simplement pas pu écrire. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'on leur a interdit ou que ça ne se faisait pas de se faire publier quand on était une femme, c'est que quand vous aviez 5 enfants, que vous deviez vous occuper du foyer, que vous deviez faire tout ça, vous n'aviez évidemment pas ce temps qui est un temps très très particulier. Le temps de l'écriture, c'est un temps du silence.
On s'organise, on y arrive.
Ça représente quoi dans votre existence, Leïla? Parce que au préalable, avant de vous consacrer uniquement à l'écriture, vous étiez journaliste. Là maintenant, qu'est-ce qui a changé depuis votre précédent roman, déjà qui avait rencontré un vrai succès d'estime? C'était dans Le Jardin de l'Ogre. C'était en 2014, c'est assez récent.
Moi, c'est vrai que maintenant, je me consacre uniquement à l'écriture, donc j'ai la chance d'avoir une vie entièrement tournée vers l'écriture. Mais je me souviens que quand j'ai démissionné de mon travail de journaliste et que j'ai dit « je vais me consacrer à l'écriture », il y avait plein de gens qui me regardaient souriant en disant « c'est bien, comme ça tu vas profiter de ton fils ». Je disais « non, en fait, je vais m'occuper de... je vais écrire, je vais travailler ».« Mais c'est bien, comme ça quand même, tu verras un peu plus ton fils ». Non, je vais vraiment travailler. Tu vois, donc il y avait quelque chose comme ça où on sent que les gens ont quand même...
À ceci près que vous pouvez travailler chez vous.
Oui, je peux travailler chez moi,
donc
bien sûr.
Donc vous pouvez voir votre fils.
Voilà. On en revient toujours au même truc.
Mais vous pouvez décider de travailler ailleurs que chez vous aussi.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même un travail très, très particulier et que pendant très longtemps, moi j'ai beaucoup discuté avec des écrivaines là-dessus, et puis il y en a beaucoup qui le racontent. Virginia Woolf le raconte très, très bien dans Une chambre à soi. Le simple fait de dire je vais laisser mes enfants à quelqu'un d'autre, les confier pour moi, m'a donné à ce travail très étrange qui est d'écrire des romans, les gens vous regardent un peu en disant « franchement, il y a quand même plus important que d'écrire tes petits trucs, tu pourrais t'occuper de tes enfants. »
Surtout quand on sait maintenant ce que vous pensez des nounous.
Voilà.
Chanson douce, c'est chez Gallimard. Si vous êtes passé à côté, il est encore temps de rattraper la poussette pendant qu'elle roule lentement, mais c'est vraiment un très bon film. Ah tiens, lapsus révélateur, je sais pas.
Ça va être adapté.
Ça va être adapté, oui.
Ça fait bizarre, non, de mettre un visage sur Louise, sur Myriam, sur Paul, sur Pascal.
Oui, oui, ça va être très bizarre.
De leur donner une voix, de leur donner...
Ça va être très étrange, mais à mon avis très grisant. Non, non, je suis assez contente.
Vous avez envie de nous, on parle de Joystar.
Je sais déjà à peu près qui ça va être, mais je ne peux pas encore le dire.
Moi, je verrais bien, pour faire un club de Leïla, pour continuer, je verrais bien Leïla Bekti. Je dis ça, je dis rien.
On peut imaginer des choses comme ça.
Non, mais le problème, c'est que s'il y a une comédienne qui s'appelle Leïla dans un film écrit par une Leïla, on va dire c'est autobiographique, c'est son histoire.
Pas du
c'est
tout. Bref. Ouais,
non, mais des Leïla.
Il y en a plein maintenant, regarde.
Regarde, il y en a déjà deux à table.
Il n'a jamais. Et c'est pas fini, c'est multiplié.
On va faire plein de petites Leïla, je vous préviens.
En échec.
Mais nous aussi, ça tombe bien, on va coexister.
Alors justement, quand on vous annonçait la venue de Leïla Slimani, vos oreilles ont sifflé.
Et oui. Et Leïla, j'ai pensé à vous parce que j'ai pensé à un recueil de textes qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. Ce sont les contes des mille et une nuits. Le récit cadre, il est quand même absolument merveilleux et tragique. Hein. L'histoire, c'est quand même celle d'un sultan qui est cocu, on va le dire comme ça, et qui condamne cette femme adultère à la mort. Et afin d'être sûr de ne plus être trompé à l'avenir, il décide d'épouser une femme chaque jour et de la faire exécuter le soir même, comme ça au moins, il prend pas de risque. Et dans ces femmes qui passent devant lui, il y a une certaine Scheherazade, la fille du grand vizir, qui, par son don, comme votre don, Leïla, pour raconter des histoires, va réussir à dilater le temps, à faire repousser le moment de l'issue finale. C'était bête, Daniel.
Dès qu'il parle de dilatation, il est sur le coup.
Et forcément, et comment le récit, et ça c'est intéressant, parvient à façonner les hommes, à les faire évoluer, et dans une certaine mesure, comment Scheherazade parvient à regagner la confiance de son mari par une simple histoire. Et ça donne tout d'un coup toutes ces lettres de noblesse à la littérature. Un petit extrait.
J'avais hérité de ma famille des biens considérables. J'en dissipais la meilleure partie dans les débauches de ma jeunesse. Mais je revins de mon aveuglement, et rentrant en moi-même, je reconnus que les richesses étaient périssables, et qu'on en voyait bientôt la fin, quand on les ménageait aussi mal.
Voilà, c'est un extrait des Contes des Mille et Une Nuits qu'on peut trouver en ligne, comme ça, comment la littérature parvient à défier la mort. Et je crois que c'est un texte important pour vous, Leïla, puisqu'enfant, vous étiez bercée.
Oui, c'est un texte très important pour moi parce que effectivement, on me l'a beaucoup lu quand j'étais petite, que ensuite moi je l'ai redécouvert. Puis ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est qu'en fait, selon les âges auxquels vous le lisez, les périodes de votre vie, vous le lisez complètement différemment et vous redécouvrez des contes. Et ensuite, c'est un texte qui est très important pour moi parce qu'il y a une sociologue marocaine qui s'appelle Fatema Mernissi qui a écrit de très belles choses sur ces contes des Mille et Une Nuits, expliquant notamment pourquoi c'était très important que ce soit une femme qui raconte cette histoire. C'est-à-dire que pour une fois, la femme reprend ses droits sur le récit et elle a le droit à la parole. Et à travers ce droit à la parole, elle va lutter contre la haine fondamentale de l'homme vis-à-vis du gynécée, vis-à-vis des femmes. Et donc c'est un texte aussi finalement très féministe. Excusez-moi, Maréchal, mais j'insiste.
Je vous écoute avec beaucoup d'attention.
Maréchal, il est passé une heure et demie un peu compliqué là.
Non, c'est vrai, il comprend.
Ça passe.
C'est tout le contraire, vous n'avez rien compris.
Et je pense également à un autre texte, Leïla, il y a les Mille et une nuits, et puis il y a l'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Vous dites que c'est un texte fondateur pour vous, vous nous expliquez?
Oui, c'est un texte que j'ai découvert quand j'étais adolescente. C'est un texte qui m'a beaucoup marquée d'abord parce que c'est la première fois que j'ai eu une lecture qui m'a tellement bouleversée presque physiquement. C'est-à-dire c'est une lecture vraiment très très sensuelle. C'est un texte sur le désir féminin et je l'ai lu à l'adolescence, à un âge vraiment où ça m'a à la fois mis mal à l'aise et ça m'a
troublée
énormément. Et ensuite, ce qui était assez étonnant, c'était les ressemblances finalement entre le destin des personnages et ce que je vivais moi-même dans le Maroc de Hassan II, qui était un pays donc qui subissait quand même une chape de plomb. On parlait pas beaucoup, on était beaucoup dans les chuchotements, dans le silence. Lui racontait le Prague communiste dans lequel c'était un peu la même chose, miné par la corruption, par les faux-semblants, par les petites compromissions. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, je me suis dit, c'est incroyable, je suis à Rabat en 1994-95, je lis ce texte écrit par un tchèque sur la Prague des années 70 et on parle de la même chose. Est-ce que c'est c'est pas ça la littérature, justement d'être capable de faire des ponts entre des gens qui n'ont rien à voir, qui sont nés à des kilomètres, mais qui se parlent de la même chose.
C'est un peu la naissance de l'envie d'écrire.
Exactement, en fait. Ouais.
Notre invité est donc Leïla Slimani. Non, mais voilà. J'ai bien écouté votre émission.
Il est bouche bée.
Ouais, exactement. Exactement.
Ça se passe bien, le micro-sieste ?
Non, mais parce que je trouve surtout, Leïla, que vous parlez aussi bien que ce que vous écrivez.
C'est-à-dire,
c'est extrêmement fluide. Vous choisissez avec attention et intelligence les mots et c'est extrêmement agréable. Voilà.
C'est juste.
Excusez-moi de faire cette déclaration d'amour.
Mais, je vous excuse.
Mais il se passe un truc. Et il va se passer un autre truc maintenant avec Marie Sistit.
Non,
mais si, c'est Marie Sistit. Mais oui, elle est là.
Alison.
Bonjour à tous. Hein, c'est Marie Sistit de la Manif pour tous. Ah, oui. Elle aime péter, oui, mais elle aime manger aussi. Car demain, c'est l'épiphanie. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour commémorer avec vous l'existence d'une tradition chrétienne. Nique les païens, nique la laïcité. Ici, c'est la France bébé. Alors, attention aux faux amis. L'épiphanie n'a rien à voir avec l'épisiotomie. Même si dans les deux cas, ça déchire.
Bon. Oh non.
Et si vous n'aimez pas les fêtes, n'en dégoûtez pas les autres. Mais quelle magnifique célébration que celle de l'épiphanie. La galette des rois, ce mets délicieux que nous savourons pour rendre hommage au roi. Mage, ça rime. D'où Jésus, je slame encore, mais c'est plus fort que moi. Alors pourquoi la galette est-elle un mets qui représente en quelque sorte la société idéale? Déjà parce que c'est un plat qui se déguste en famille, un papa, une maman, la frangipane, c'est important. Et puis, cette pâte feuilletée qui nous rappelle le rôle naturel de la femme, n'être que douceur et se faire fourrer un dimanche par an. Et la grosse part, c'est pour qui? C'est pour papa. Oui, le bon patriarcat, ce bon vieux socle sur lequel il est si confortable de s'asseoir. Moi, Marie Sistit, j'aime la galette. Aussi parce que ça me rappelle mon enfance. Comme la tradition le veut, on demande à la personne la plus jeune de passer sous la table pour attribuer les parts, ce qui me ramène à mes cours de catéchisme où enfant, on me faisait déjà passer sous l'autre. Bref, j'ai déjà eu la fève, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que je profite de cette tribune gaucho bien penséiste qu'est France Inter pour dire tout haut ce que tout le Oh, sainte mère de chat, je vais y arriver! Bon! Enfin, j'en profite pour dire la vérité que tout le monde attend. Non, il n'y avait pas de noir dans les rois mages. Non, mais ça va pas, et pourquoi pas un Jésus noir tant qu'on y est? Ah non, c'est la naissance de la chrétienté, pas une pute badania! Remballez le Nesquik, merci à roi mage noir. Non, mais Taubira démission! Je vous arrête tout de suite, c'est pas du racisme, attention, c'est de la culture. Les rois, c'est pas noir. Attendez, Louis XVI, il était noir peut-être? Louis XIV, il était noir aussi? Louis-Philippe? Louis Vuitton? Non, un peu de culture, messieurs, dames. Un roi mage noir? Non, mais je vous rappelle que les rois mages apportent des cadeaux. Vous avez déjà vu un noir filer un truc gratos à Barébola? C'est pas du racisme, c'est de la culture. Pauvre petit Jésus, déjà imaginé. Naître dans la paille, c'est déjà triste. Mais en plus, ils sont tontons, c'est Pascal Légitimus. Non, attendez, c'est la nativité par un anniversaire chez McDonald's. Sheila disait, comme les rois mages, en Galilée, suivez des yeux l'étoile du...
berger.
Oui, voilà, pas du bédouin, ça me marie de la pine. Il faut pas toucher aux choses juste pour faire jeune, ça finit par se voir. Et c'est pas Sheila qui me contredira, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je les entends ici, mais la laïcité, Marie Sistit, la France est un pays laïque. Oh, mais sainte vierge des barésies, flûte à la fin. Arrêtez de me jouer du pipeau avec votre zob. La laïcité et la France, c'est comme deux hommes, ça ne devrait pas avoir de rapport. Et après, avec ces billevesées de merde, on n'a plus le droit de mettre des crèches dans les mairies, sous couvert de laïcité. Puis quoi encore, on va passer du zouk sur Radio Courtoisie? Non mais oh, bah les pattes, les ordures cosmopolites et autres partouzeurs de Montreuil. De toute façon, c'est pas possible. Je vous rappelle qu'il y avait quand même des bergers dans la crèche. S'ils avaient vu arriver un roi mage bronzé, ils auraient brandi leur bâton de berger. Ça fait fuir les Arabes. Oui, je sais, les Noirs, les Arabes, c'est pas la même chose. Merci. Mais les Arabes, j'ai rien contre eux. Je prends régulièrement des Uber. Ça suffit le grand remplacement. Une fois pour toutes, les rois mages, c'est Gaspard, Melchior et Balthazar, pas Mohamed, couscous et guacamole. Et puis merde, avec le multiculturalisme là, dans la galette des rois françaises, on met de la frangipane, pas du beurre, à bon entendeur. Non mais vous voulez quoi? Qu'on se mélange? Qu'on s'intéresse aux autres cultures? Mais ça va pas la tête, on risquerait de se comprendre. Et ça, je vous préviens, on commence comme ça et puis on finit par arriver à vivre ensemble. Non mais flûte de chatte, à la fin tresse de couilles, pénétrez vorace, pardon. Pardon, je m'énerve un peu, mais c'est important, cette période de nativité, de se recentrer sur nos valeurs et notre identité. Parce qu'à force d'accepter d'accueillir tous ces réfugiés, nos belles valeurs chrétiennes d'humanisme et de générosité, elles vont finir par disparaître. Hein, et ce sera dommage.
Comme les rois mages.
Bravo, bravo, Alison Wheeler.
La bande originale, la vie.
Qui a poussé le vice à interpréter Marie Sissite et à se fringuer comme Marie Sissite.
Elle était sûre.
Un petit col Claudine.
Comme ça.
Un col Claudine.
Référence.
Ouais, non, je n'ai pas osé le
référence
dire,
à Louise.
Oui, oui.
Elle est, vous la verriez habillée comme ça, Louise?
Oui, à peu près, ouais, ouais. Ouais, elle est habillée à peu près comme ça.
La nounou infanticide.
Ça veut dire que,
c'est-à-dire que tu peux tuer deux enfants. Et je ne dévoile pas la fin, puisque c'est exactement l'ouverture du livre. Ça met l'ambiance dès les deux premières pages. Ouais. Vous prenez ça comme une claque.
Direct.
Et après, vous ne pouvez plus le refermer parce que vous voulez absolument savoir et comprendre ce qui a bien pu se passer. C'est le talent de Leïla Slimani, justement, pour mieux connaître. Leïla, on s'est intéressé aussi à vos goûts musicaux et à ce qui s'est passé dans votre vie, notamment en 80. 13 lorsque vous écoutiez.
Ah oui.
Toujours.
Ça,
c'est le clip incroyable. Qui a ouvert, je sais pas. Avec le morphing.
Avec oui, tu tournes la tête, oui.
C'est oui,
tête gauche droite et bim, morphing.
D'ailleurs, mais là avec les cheveux ondulés, il y a un personnage comme ça au début du clip, tu vois.
Black or White, Michael Jackson, vous aviez une petite fille en train
J'avais 12 ans, ouais.
En train de danser comme Michael Jackson devant la glace, vous
Exactement.
Faisiez le moonwalk et tout.
Ouais, ouais, je faisais le moonwalk et tout, et puis tous mes copains adoraient Michael Jackson. Faut dire qu'au Maghreb, en Afrique de manière générale, mais au Maghreb, Michael Jackson, c'était quand même l'idole de tout le monde. Je veux dire, à ce moment-là, il n'y avait pas encore Internet, les réseaux sociaux, les trucs. Donc, il y avait quelques grands chanteurs qu'on écoutait beaucoup. Et Michael Jackson, c'était le roi, quoi.
Pendant que vous écoutiez Michael Jackson, le reste du temps, vous étudiez au lycée français de Rabat. Vos parents parlaient français à la maison, ce qui fait que vous parlez pas super bien arabe, c'est vrai?
Je parle très bien l'arabe dialectal, mais je suis nulle en arabe classique, ça c'est vrai.
L'arabe littéraire,
ouais,
celui
l'arabe
des
littéraire,
Égyptiens.
Exactement, j'ai pourtant fait de l'arabe littéraire depuis le primaire jusqu'à la terminale, mais il y a un problème, je sais pas pourquoi, ça s'est pas bien fait.
Quel genre d'élève étiez-vous?
J'étais une très bonne élève. une très bonne élève.
Dites la vérité.
Ouais. Non, c'est vrai.
C'est vrai. Est-ce que vous étiez déjà littéraire?
Ouais, j'étais déjà littéraire.
Ça sentait. Vous aimiez jouer
littéraire.
Avec les mots.
J'aimais raconter des histoires, j'aimais écrire, j'adorais les rédactions et tout. Alors, ma mère, elle pourrait vous sortir aujourd'hui des rédactions de moi en CE2 et elle vous dirait Je le savais.
Très belle imitation d'un qui va bien le prendre.
Non, mais c'est vrai. Donc, elle a gardé des vieux trucs et tout. Mais j'ai toujours adoré ça, ouais.
Et votre papa était plutôt, lui, dans les maths et dans les finances.
Mon père était banquier, ouais, tout à fait. Mais il adorait lire aussi. Hein. C'était vraiment un littéraire dans l'âme aussi.
Et la place de la littérature à la maison, est-ce qu'il y avait une bibliothèque? Il y avait des moments de lecture
Oui, elle était très, très importante, la place de la lecture.
Ça jouait dans
l'éducation. Mes deux parents lisaient énormément, parlaient beaucoup de littérature, parlaient des écrivains. Ils avaient surtout une grande fascination pour les écrivains. Donc, ils nous racontaient la vie des écrivains, leurs engagements, etc. Donc, j'avais le sentiment que c'était finalement la plus belle vie qu'on pouvait avoir, le plus beau rôle qu'on pouvait jouer, c'était celui d'écrivain, donc c'est devenu une figure sacrée.
Vous auriez pu faire exactement le contraire, c'est-à-dire avoir une réaction épidermique et prendre le contre-pied de tout ce que vos parents ont essayé de vous transmettre en n'aimant pas du tout la littérature. Et
en même temps, ils me le racontaient comme une histoire, donc ça m'intriguait,
boulot,
ça me fascinait.
Quoi,
voilà, c'était pas du boulot, c'était une vie fascinante, faite aussi de grandes passions amoureuses, de drogue, de voyages. Donc quand vous êtes adolescent, importante et qu'on vous raconte la vie de Baudelaire, de Dostoïevski, etc. C'est des vies qui vous donnent envie de, voilà, de vous approcher de tout ça.
Tout était, tous les sujets étaient possibles à la maison ? Il n'y avait pas de
sujets ?
Oui,
tous les sujets étaient possibles. On débattait énormément. Moi, je me souviens que quand des copains ou des gens venaient à la maison et qu'ils assistaient au dîner, ils se disaient, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? C'est-à-dire qu'on parlait de tout, on s'engueulait. Alors que bon, c'est vrai que dans le milieu dans lequel je vivais, et puis souvent au Maroc, les enfants ne contredisent pas leurs parents à table. Moi, mon père, je pouvais tout à fait le contredire. On débattait, on partageait nos points de vue et c'était très bien.
Et votre mère était une des premières femmes médecins du pays aussi.
Oui, une des premières femmes spécialistes, parce qu'il y avait quelques femmes généralistes, mais c'était une des premières femmes qui avait réussi les concours de spécialité.
1999, vous écoutiez. Right up in their face till they faced it. Hard to the dome like a chrome microphone. I'm bad to the bone. Danger, zone, that's my life and my song. Keep it moving, hop along little doggies. Wu-Tang Clan avec ce titre Fast Shadow, c'est la bande originale de Ghost Dog. C'est pour le Wu-Tang Clan ou c'est pour la BO du film que...
C'est les deux. J'avais le film m'avait fasciné et puis j'adorais Wu-Tang Clan aussi, donc c'est les deux.
À ce moment-là, vous arrivez en 99, vous débarquez à Paris, à la capitale, en France.
À la métropole.
Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? C'est juste un voyage pour parachever ses études en Hippocagne, Cagne, ou c'est quitter le Maroc pour vivre en France définitivement ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ?
À ce moment-là, je pense que je me rends pas vraiment compte. Je me souviens simplement que ma mère, voilà, m'a installée dans un foyer de jeunes filles. J'habitais à l'avenue de l'Observatoire. Je m'apprêtais à commencer ma prépa, et puis ma mère a...
Vous voulez être psy à l'époque ?
Je m'intéressais beaucoup à la psychiatrie, mais je voulais déjà plutôt être enseignante ou journaliste. Enfin, voilà, je faisais une prépa littéraire, donc ça allait de toute façon être un métier autour de la littérature. Et puis voilà, ma mère est partie, m'a dit au revoir, et je me suis retrouvée dans cette grande ville. Je savais pas tellement à quelle sauce j'allais être mangée. Je comprenais rien à cette ville. Je la trouvais immense, très froide. Je trouvais les gens très indifférents à les uns aux autres. Et puis voilà, les choses se sont améliorés au fil des années, heureusement.
On a parlé de Kundera. Enfin, Leïla, tout à l'heure, vous a parlé de Kundera. Stefan Zweig aussi a beaucoup compté dans sa...
Oui, il a beaucoup compté. Alors Stefan Zweig, ce qui m'a beaucoup marqué chez lui, c'est vraiment la forme. C'est un très très grand auteur en termes de forme. Il est capable, en quelques lignes, en quelques pages, de vous brosser une situation, d'installer un personnage, de mettre en place un malaise. Donc c'est vraiment un très grand maître là-dessus. Puis moi ensuite, je suis allée vivre en Europe centrale. J'ai vécu à Budapest. C'est une région.
Là, vous êtes partie avec maman en Russie. Hein.
C'était un voyage que j'ai fait avec ma mère sur la trace des auteurs russes. Parce qu'on est toutes les deux folles d'auteurs russes, donc on est allé visiter tous les appartements de grands auteurs russes. On sanglotait devant les bureaux, puis il y avait les guides qui nous regardaient comme si on était deux folles, en plus avec nos cheveux frisés, bien basanés, en train de pleurer en disant c'est là qu'il a écrit mes châtiments. Je pense qu'elles étaient un peu inquiètes, mais ça s'est bien passé. J'ai vécu effectivement à Budapest, je suis allée un peu à Vienne, etc., à Prague, sur les traces de Kafka, de Stefan Zweig. Donc c'est une littérature qui m'intéresse beaucoup.
Parce que l'endroit où un roman a été écrit, les conditions dans lesquelles les pages ont été écrites sont importantes. Elle transpire dans une œuvre, vous pensez ?
Oui, ça dépend des heures, mais il y a parfois, oui, je pense que chez Kafka ou chez Zweig, par exemple, cette présence de Vienne chez Zweig est très très importante. Il a écrit des pages absolument magnifiques sur ce qu'était Vienne à cette époque-là, parce que c'est pas seulement un objet littéraire, c'est aussi un objet politique et social. Il raconte ce qu'a été une ville à un moment absolument exceptionnel, et j'avais envie d'aller sur les traces aussi de ça, surtout sachant ce qui s'est passé.
Comme Paris
après.
Est important et présente d'ailleurs dans
Bien sûr,
dans,
Paris, c'est
dans
un
Chanson
personnage
douce.
De mes romans. Ouais.
Ouais, les squares ouais. Surtout.
Bien sûr.
Et ces squares où il y a de moins en moins de mamans et de plus en plus de nounous.
Oui, de plus en plus de nounous, et puis c'est pas un mal d'ailleurs qu'il y ait de plus en plus de nounous et moins de mamans, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était la sociologie de ces nounous, c'est-à-dire que vous rentrez dans ces squares que j'ai énormément observé, puis vous avez des groupes qui sont constitués avec les nounous ivoiriennes, les nounous maghrébines, les nounous slaves, les nounous philippines, qui souvent ne se mélangent pas trop, ne discutent pas trop entre elles, qui ont chacune leurs horaires, leurs méthodes. Donc,
mais dès qu'un homme arrive, même si c'est le papa d'un enfant...
Oui, on se méfie pas mal des hommes, surtout voilà, dans les journées de semaine, journées de travail, on se méfie parce qu'il y a des types parfois un peu bizarres qui traînent. Mais ça, c'est très intéressant à observer.
En 2008, vous écoutiez... Il faut nous présenter parce que ça passe pas tous les jours à cette
star-là. Alors ça, c'est, justement, c'est pour ça que j'avais envie de le faire écouter aussi. Ça, c'est Hoba Hoba Spirit et c'est une chanson qui s'appelle Bled Schizo et qui est une chanson culte au Maroc. Bled Schizo, donc ça veut dire pays schizophrène. Et c'est vraiment une chanson très très importante à cette époque-là, parce que c'est le moment au Maroc qu'on appelle la Naïda, qui est l'équivalent un petit peu de la Movida espagnole. Mm-hmm. Donc après l'avènement de Mohamed VI, voilà, de Mohamed VI au pouvoir, il va y avoir cette espèce de mouvement de libération, en tout cas dans la culture, avec des festivals de rue, des grands moments comme ça de partage et tout. Et puis ces premiers groupes marocains qui vont chanter en darija, donc en langue dialectale. On abandonne le littéraire pour parler vraiment le langage de la rue, et cette chanson raconte la dualité, la schizophrénie que vit n'importe quel Marocain, quel que soit le milieu social auquel il appartient, qui est cette schizophrénie d'avoir un visage social, qui est le visage de la piété, de la moralité, où on ne raconte pas ce qu'on fait et tout, et derrière, quelque chose de plus festif, de plus subversif, de plus amoureux, voilà.
Vous êtes journaliste dans ces années 2008, vous avez démissionné de Jeune Afrique, hein, c'est là où vous travaillez pour vous consacrer à l'écriture. C'était inimaginable de continuer de faire les deux en même temps ?
Oui, c'était inimaginable pour moi. Ouais. Moi, j'avais envie vraiment de ne faire que ça. Et puis, j'avais envie d'être sûre que j'avais tout donné, que j'avais mis toutes les chances de mon côté, que j'avais consacré toute l'énergie possible à ce premier roman. Parce que comme ça, si ça marchait pas, je n'avais pas d'excuses de me dire
pas de regret.
C'est pas parce que t'aurais dû donner un petit peu plus de temps et tout. Je venais en plus d'avoir mon enfant, mon premier enfant. Donc, c'était quand même compliqué d'avoir mon travail, un enfant, l'écriture d'un roman. Et puis, voilà, dans la mesure où j'en avais la possibilité, j'ai pris cette liberté.
Premier roman, premier succès dans le jardin de l'ogre. Et vous écoutiez. Ibrahim Mahalouf, le génial Ibrahim Mahalouf qui a donné un concert pour fêter ses 10 ans de carrière à Bercy. Sûrement l'un des plus beaux concerts de ma vie. J'ai rarement vu un concert comme ça pendant
4 heures et quart.
Ouais, 4 heures et quart, mais pardon de l'expression, il n'a pas débandé pendant 4 heures et quart et le public non plus. C'était un truc de dingue. Je voudrais savoir quelle est la place de la musique dans votre... Puisque tout à l'heure vous parliez justement de l'endroit où un artiste écrit, le cadre qui peut influencer son écriture. Ce cadre-là, on a bien compris la présence de Paris, de ses squares et de ses terrains de jeu d'enfants dans votre roman Chanson douce. Mais est-ce que la musique joue? Est-ce que vous écrivez à la main? Vous écrivez sur un ordinateur? Comment vous travaillez?
J'écris sur un ordinateur, mais je prends toutes mes notes à la main. Donc j'ai des carnets, des dizaines et dizaines de carnets avec des petites notes auxquelles je ne comprends parfois plus rien, malheureusement, quelques semaines après, mais voilà.
Et, vous notez une situation, une expression,
voilà,
ou un geste?
Quelque chose que j'entends dans la rue. Moi, je travaille beaucoup sur l'observation. Je pense que c'est quelque chose qui me reste de mes années de journaliste et de reporter. C'est-à-dire que j'ai tendance à tendre l'oreille. C'est-à-dire que vous pouvez me voir dans un supermarché complètement bloqué comme ça, en train d'écouter.
Écoutez, ça
ne
veut pas dire
que
vous avez un torticolis, il ne faut pas...
Ouais. Voilà, non, mais la parole brute, en fait, elle a une richesse absolument incroyable. Être capable de capter parfois des phrases dans un bus, dans un supermarché, dans la rue, il y a une vérité dans cette parole-là.
Il y a des gens
parole-là.
Qui vous ont vu en train de les écouter et qui ont
oui,
été
oui,
surpris.
Ça m'est, oui, ça
et
m'est alors, déjà arrivé, mais en général, solitude. On engage la conversation.
Oui,
on
d'accord.
commence à discuter, donc ça se passe plutôt bien.
Bah, quand même, elle a eu un enfant, elle en attend un deuxième, donc c'est déjà fait.
Et dans quel endroit vous avez le plus d'inspiration? Les supermarchés?
Non, dans les endroits où j'ai le plus d'inspiration, c'est dans les transports, dans les trains, dans les avions, dans les aéroports. Parce que là, vous voyez beaucoup de choses et tout.
Vous
pouvez
plus
le faire
maintenant, vous êtes plus anonyme, hein, vous savez. Ils vont vous reconnaître.
Oh, quand même. Non, j'arrive encore à me fondre dans la foule, heureusement.
Ce premier roman, c'est votre maman qui l'avait qualifié de Madame Bovary X,
ouais.
C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Trop de sexe ?
Non, pas du tout. Elle trouvait ça bien. C'était dans un sens positif en disant c'est Madame Bovary à l'ère de.
Une nouvelle génération.
Voilà, dans une nouvelle génération, c'est
Bovary X.
Voilà.
En 2016, cadeau. En 2016 arrive donc le phénomène chanson douce, et là vous écoutiez l'excellente.
Qui avait mis le feu ici.
Oh là là, quelle rose. Quelle
histoire formidable.
Génial.
Ouais, parce que c'est pas que de la musique et pas qu'une énergie, c'est toute une philosophie de la vie et elle a vécu des horreurs dans sa vie. Elle a eu beaucoup de maladies, beaucoup d'avortements. On va en reparler dans quelques instants, évidemment, à propos de ce festival Le Paris des Femmes. Mais pour en revenir à ce phénomène chanson douce, l'histoire donc de ce jeune couple. On n'a pas trop d'ailleurs les âges. On les découvre qu'au fur et à mesure, hein, les âges, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, on sait pas trop bien s'ils sont maigres ou gros, grands, petits.
Mais j'aime bien que le lecteur puisse finalement créer son propre personnage. Je lui donne quelques indices, mais je n'enferme pas le personnage dans une description très très détaillée.
Ce qui sera le problème du film.
Non, parce que en même temps, je pense que ça donne une. Enfin, il y a quand même quelques éléments très importants. Par exemple, Louise, on sait qu'elle est très menue, on sait qu'elle est blonde, on sait qu'elle s'habille de manière un petit peu.
Elle est pas grande,
un peu engoncée, qu'elle a ses petits cols Claudine, etc. On sait que Myriam est d'origine maghrébine, qu'elle est assez typée, qu'elle a des cheveux très volumineux et tout. Et puis qu'elle est typée parce que à un moment, elle est victime de racisme simplement sur son visage. Donc on suppose que c'est écrit sur sa tête qu'elle est arabe. Paul, il est décrit à un moment aussi. Donc il y a quand même quelques indices.
Ouais, et puis ils vont se transformer aussi en fonction des situations.
Oui,
même
sûr,
Louise va se découvrir dans un cours de natation avec Paul, peut-être un début d'érotisme au contact de la peau de l'un et de l'autre. D'ailleurs, d'écrire en se mettant dans la peau d'un homme, c'est un exercice. La question que l'on a posée aussi des centaines de fois à des hommes en se disant écrire à la place d'une femme, c'était même d'ailleurs Philippe Labro, pour lui rendre un énième hommage dans cette émission où il avait écrit comme s'il était une adolescente de 17 ans. Ça, c'est un exercice jouissif aussi pour vous.
De toute façon, quand on écrit, on se met dans la peau d'un autre. Alors après, qu'il soit un homme, une femme, un monstre, une personne gentille, un gros, un maigre, ça n'a plus vraiment d'importance. C'est le premier pas qui est difficile, celui de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais l'autre, après...
Madame Bovary, c'est moi ?
Oui, c'est ça.
Disait Flaubert.
Ouais. C'est ça. Nous parlons donc de ce festival, sixième festival, le Paris des Femmes, qui, sous le titre Scandale, permet à 10 auteurs de pouvoir évoquer le scandale, mais avec le prisme de la femme, généralement. C'est ce qui se passe globalement, même si tout le monde s'y retrouvera et s'y reconnaîtra dans les situations vécues. Leïla Slimani, vous avez choisi le prisme de l'avortement et de l'interruption volontaire de grossesse au Maroc, qui est une situation, puisqu'elle n'est toujours pas autorisée, légale et reconnue. C'est justement ce dont nous voulions parler, parce que c'est un paradoxe. On a beau être en 2017, on a beau se dire c'est fait, on y est arrivé, les lois sont passées, tout va bien. Ben non, ça revient régulièrement dans l'actualité, dans les débats même politiques. C'est ça qui est assez surprenant. On a demandé à Dominique Boubélier, merci d'ailleurs d'être notre invité. Vous qui êtes médecin généraliste et responsable du centre d'IVG de l'hôpital Louis Mounier à Colombes, de venir parler de l'IVG, parce que C'est de votre côté, est-ce que vous avez toujours le sentiment que c'est encore un combat, l'IVG, et que on n'est pas finalement dans une situation qui est acquise en France ?
La place dans l'hôpital est quand même encore très marginale. Je veux dire, moi je travaille, on a été un des premiers centres à ouvrir à l'assistance publique, et aujourd'hui encore on est menacé, on va nous apprendre à travailler sur un mode dégradé. C'est-à-dire qu'on nous enlève un personnel équivalent temps plein, une aide-soignante, et puis on va venir nous expliquer comment on peut travailler, alors que ce centre a quand même fait la preuve de son efficacité. Je veux dire, on reçoit les femmes qui en sont quand même satisfaites depuis toujours, avec un espèce de binôme très important, je veux dire, médecin, infirmière, Pour nous, d'abord, l'avortement, c'est d'abord une histoire de femmes. Hein, c'est-à-dire qu'elles sont reçues par nos infirmières. Les choses ont un peu progressé quand même depuis.
Quand vous dites pendant une histoire de femmes, c'est évidemment le côté psychologique, relationnel, humain.
Ce qui gêne beaucoup dans l'avortement, c'est que c'est la femme qui a le choix et qui décide. Et qui demande au médecin, et le médecin va dire oui ou non, ou va juger. Enfin, c'est quelque chose d'intolérable. Je veux dire, on n'a pas à juger d'une situation. On est là pour permettre un geste simple, qui est très important, je veux dire, pour les femmes d'aller dans leur parcours. C'est-à-dire, justement, le scandale, c'est que cette femme qui est enceinte décide de ne pas poursuivre sa grossesse. Et ça, je crois que ça rejoint le thème de l'émission d'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que les femmes puissent avoir le choix, c'est quelque chose qui est vraiment très très mal vécu pour certains.
Et c'est pas anodin en plus, parce qu'on fait penser qu'une femme, en gros, elle a 5 minutes devant elle et elle dit tiens, je vais me faire avorter.
C'est ce qu'on appelle l'avortement de confort, qui est une expression.
En 40 ans de bons états de service,
cette idée-là, elle est insupportable en fait. Mmh.
Moi, je n'ai jamais vu un seul avortement de confort.
Bah oui.
Je veux dire, effectivement...
Non, mais c'est, malheureusement, ça existe comme expression.
C'est devenu un thème.
Ça existe dans une partie très particulière de au niveau politique. Hein,
et l'avortement, c'est devenu un thème de campagne.
Sans rentrer dans des clichés, de vous demander quel est le profil type de la femme qui a recours à vos services et à l'IVG. Moi, je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a quand même des couples, est-ce qu'il est de plus en plus fréquent de voir un homme aussi accompagner sa femme ou sa compagne ou son amour et être psychologiquement présent dans cette étape douloureuse.
Je vais peut-être d'abord répondre à la première partie de votre question qui est la plus fondamentale, c'est qui sont les femmes qui avortent ? Ce sont les mêmes que celles qui accouchent, mais à des moments différents de leur existence.
Oui, mais
donc effectivement, il y a des femmes qui sont seules à ce moment-là, qui vont venir seules. Il y a des femmes qui sont en couple et qui peuvent venir accompagner de leur compagnon.
Je ne voulais pas stigmatiser celles qui font appel à l'IVG en disant elles sont toutes comme ci ou comme ça.
Il n'y a pas de profil.
C'est ça.
Ça recoupe
tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles.
Mais est-ce qu'il y a des mecs qui assument ? C'est ça qui m'intéresse.
Celles qui vivent avec un monsieur à ce moment-là, oui, il y en a d'autres qui sont dans des situations où ils ne sont pas en couple. Enfin bon, on ne peut pas généraliser.
Puis on peut ne pas avoir le désir d'être accompagné là-dedans aussi.
Mais ça peut aussi être une histoire privée.
Il y a beaucoup d'IVG.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'autorisation de l'homme
heureusement,
pour pouvoir
faire
une IVG, comme ça peut exister.
Heureusement. Parce que la femme dispose de son corps, heureusement.
Je voulais revenir aussi sur le fait qu'il faut quand même notifier aujourd'hui qu'il y a à peine 50 pays dans le monde. Qui autorise l'avortement. Je veux dire, c'est quand même assez saisissant. Effectivement, la première cause de mortalité chez les femmes de moins de 40 ans dans le monde, c'est quand même la maternité. 2/3 sont liés à l'accouchement et 1/3 sont liés à l'avortement clandestin.
Donc, au Maroc, par exemple, 600 avortements clandestins par jour. Par jour.
Et alors, comment
quand je dis avortement clandestin, c'est pas dans des cabinets. Hein. C'est à l'arrière d'une maison sur une chaise en plastique avec une aiguille à tricoter.
Et parce qu'il n'y a pas de préservatif, il n'y a pas de moyen de contraception.
D'abord, il y a des viols, d'abord, il y a de l'inceste. C'est une part très importante des femmes qui tombent enceintes. Il y a une absence totale d'éducation sexuelle. Donc les gens ne savent pas. Les gens utilisent comme contraception du Coca-Cola, se lavent avec de la Javel et pensent que c'est comme ça qu'on va empêcher d'avoir des enfants. Ils ne savent absolument pas ce que c'est un préservatif.
En 2017.
Oui, en 2017. Bien sûr, j'ai entendu des femmes qui m'ont dit ça.
Ok.
Après, c'est une politique aussi gouvernementale, étatique, que de mettre en place une éducation, de ce point de vue-là, une communication quant aux moyens de contraception. Et ça, c'est pas encore le cas.
Est-ce que le droit à l'avortement est menacé en France, à votre avis, de ce que vous ressentez
Les
notes administratives que vous voyez passer.
Il faut rester vigilant. C'est-à-dire que d'une part, les moyens attribués à l'avortement sont très minces, très très minces, hein, depuis le vote de la loi. Il y a quand même 75, enfin ça s'est pas arrêté en France en 75. Il y a eu des améliorations, il y a un petit peu une extension sur le délai qui est passé de 12 semaines d'aménorrhée à 14 semaines d'aménorrhée, qui a permis l'accès à l'avortement pour les mineurs sans l'autorisation des parents. Pour éviter justement, on parlait des personnes, des tentatives de suicide chez les mineurs enceintes, c'est l'argument qui a permis de supprimer l'autorisation parentale.
D'accord. Et pour revenir à cette histoire de délai de semaine aussi, il faut préciser, parce que ceux qui parlent, les anti-avortements disent c'est un enfant que vous tuez et ainsi de suite. Le choix de cette durée de semaine est très précis justement par rapport à ça.
C'est-à-dire quand on regarde dans les pays comme l'Angleterre ou la Hollande où le délai est beaucoup plus large, les femmes hollandaises ou les femmes anglaises avortent très très peu dans ces délais. Ce sont plutôt les femmes effectivement qui viennent des pays où l'avortement n'est pas autorisé, où l'avortement est limité, qui se retrouvent hors délai. Plus la législation est large sur l'avortement, plus les femmes ont recours très facilement, je veux dire, à des avortements précoces et puis plus l'accès à la contraception aussi est facilité.
Encore une fois, si c'est pas une menace, il faut que ça reste quelque chose de présent à notre esprit. C'est pas un acquis non plus.
Ah non, c'est pas du tout.
Il faut que ça reste un combat.
Il faut rester vigilant.
J'aime bien cette formule. Ouais. J'aime bien. Il y a des sites, et je voudrais qu'on en parle très rapidement sans leur faire de la promotion. Au contraire, pour préciser les choses, puisque la ministre du droit des femmes, Laurence Rossignol, a dénoncé l'existence des sites internet qui trompaient délibérément les internautes en se faisant passer pour des sites officiels. Ce qui est juste évidemment scandaleux. Il faut dissuader les personnes d'aller sur internet chercher.
Ces sites se présentent comme des sites totalement officiels. Ils essaient d'harponner les femmes. Oui. Nous, on a été témoins de femmes qui sont... des fois, elles nous échangent, elles donnent leur numéro de portable jusqu'en salle d'intervention en disant « Vous le regretterez toute votre vie, oui. Vous allez commettre un assassinat, etc. » Voilà. Donc, je crois que c'est très, très important quand une femme a besoin d'avoir recours à une IVG, de s'adresser à des sites officiels, ivg.gouv.fr, donne des adresses.
C'est simple, c'est ivg.gouv.fr. Voilà. Ouais. Ouais. Ça leur arrive d'être simple, parce que généralement, c'est
interruption volontaire de grossesse. Alerte enlèvement, c'est insupportable.
Ouais, t'as pas le temps.
Non, on peut pas.
T'as pas le temps de taper. Et vous avez même un numéro de téléphone, c'est ça?
Alors, il y a un numéro national anonyme et gratuit, qui est le 0800 08 11 11, qui est un numéro qui est tenu par le planning familial, le mouvement familial, sur les sexualités, la contraception, l'IVG, et où il y a effectivement un petit peu sur comme les sites qui étaient sortis sur le site Sida Info Service, je veux dire, peuvent renseigner.
Merci docteur, merci mille fois, ça fait du bien. Voilà.
Oui, c'est bien expliqué.
Et merci de faire ce que vous faites. Leïla Slimani est notre invitée, nous parlons du Paris des femmes, la 6e édition, ça sera 6, 7 et 8 janvier, et c'est au Théâtre des Mathurins, j'ai pas l'impression de l'avoir dit depuis le début, dis donc. C'est la bande originale, soyez les bienvenus.
C'est
avec
super.
Leïla Kadour-Boutadi, Alison Wheeler, Daniel Mont, Albert Algou, qui nous accompagne, c'est Richard Ornac, et notre invité Leïla Slimani. Leïla Slimani, qui fait partie avec 9 auteurs de ce choix qui a été fait, ou de cette demande qui a été faite par Ariane Rothenberg. D'ailleurs, c'est elle, Anne, pardon, pourquoi je l'appelle Ariane? Parce que j'ai Ariane Ascari sous les yeux, c'est pour ça. C'est Anne qui est quoi, la patronne, la directrice de collection de Paris des Femmes?
Oui, c'est elle qui est notamment, enfin entre autres, à l'origine de cette idée et qui mène ça de main de maîtresse.
Est-ce que vous aviez déjà vu, puisque c'est la 6e édition, en tant que journaliste, vous avez couvert par exemple l'événement?
Non, mais j'y suis allée en tant que spectatrice. Oui, j'y suis allée en tant que spectatrice. J'y étais l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, c'était Crime et Châtiment. C'était vachement bien et ça m'avait beaucoup plu et je leur avais fait savoir que ça m'avait beaucoup plu. Donc c'est aussi comme ça que le lien s'est fait.
Et que maintenant vous êtes ambassadrice pratiquement ou marraine de cette histoire, l'actualité aidant parce que vous êtes légitimement sous les feux de la rampe. Christine Angot, Ariane Ascari, donc Aurore Auteuil, Sylvie Germain, Brigitte Giraud, Nancy Houston, Salomé Lelouch, Isabelle Monin, Marie Nimier et Leïla Slimani sont les 10 auteurs pour cette 6e édition. C'est au Théâtre des Mathurins. Est-ce qu'il y a des captations faites, parce que là on parle beaucoup, c'est très c'est le Paris des femmes et c'est parisien entre parisiens, on est dans le parisianisme poussé à son extrême, mais si on n'est pas par ego tête de veau, comment on fait pour voir
Je vous avoue que je ne sais pas.
Il y aura une tournée, il y a une captation qui est faite, vous savez
Une captation, je ne sais pas. Une tournée, je sais qu'il n'y en a pas pour le moment de prévu, puisque ce festival est un festival parisien. Mais je pense qu'ensuite, si les pièces ont du succès ou que un des auteurs a envie ensuite de continuer l'écriture, d'aller un petit peu plus loin, d'élargir, d'approfondir son texte, il y a tout à fait cette possibilité-là aussi.
Pensez pour la vôtre.
J'y ai pas pensé. Je verrai aussi la réaction du public, les retours, la façon dont ça va se passer. Moi, c'est la première fois, voilà, que ça va être qu'un de mes textes sera en 3D, comme vous l'avez si bien dit. Donc, peut-être que ça va provoquer quelque chose en moi, une étincelle, une envie d'aller plus loin. On verra.
Ça va se passer là, ce week-end. Est-ce que vous avez déjà prévu d'être présente pendant les 3 jours, de venir voir votre pièce et uniquement votre pièce?
Non, je vais essayer d'être là pendant les 3 jours. Oui, bien sûr, d'écouter aussi mes consoeurs.
C'est ça, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des lectures, spectacles, il y a des rencontres d'auteurs, notamment une où vous serez à 18h30 ce samedi 7, aux côtés d'Aurore Auteuil, de Nancy Houston, d'Isabelle Monin et de Salomé Lelouch. Voilà, il n'y a pas les 10 en l'occurrence, mais toutes les 5 vous serez réunies, et c'est Karine Papillot qui dirigera ces rencontres, toujours au Théâtre des Mathurins, pour cette 6e édition. Saluons en tout cas cette initiative, parce que moi je trouve que c'est une très très bonne idée pour avoir lu ces pièces. C'est vrai que les prismes sont totalement différents, les ambiances sont totalement différentes, et que le message du scandale est toujours latent, mais l'émotion n'est pas la même, la réflexion n'est pas la même, certaines avec un message politique, d'autres avec quelque chose de plus analytique ou psychologique. Enfin, l'exercice est intéressant. Et puis il y a des comédiens et des comédiennes à voir, il n'y a pas que des lectures, encore une fois, vous serez interprété par 3 comédiennes. Leïla Slimani est avec nous jusqu'à midi et demi, voici l'humeur de Monsieur Morin.
Oh oui.
Absolument. Ouais. Mais quel délice.
Qu'est-ce qu'il y a?
Absolu délice. Je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, Nagui, je me sens de bonne humeur.
Oh, bah dis donc.
Ouais. Oui, ça va plutôt bien.
Bonne année. Bonne année, Daniel.
Père Albert, bonne année vous aussi. Vous allez bien?
Non.
Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, j'espère.
Non, rien de grave. J'ai juste mangé comme un cochon pendant les fêtes. Je suis tout ballonné.
Ah, j'en connais un qui va devoir aller confesser un péché de gourmandise.
Mais pourquoi tu prends cette voix-là, on dirait un pédophile?
Ah ben non, mais je prenais juste une voix un peu taquine, c'est tout. Bah, à part manger comme une vache, vous avez fait quoi?
Du camping sauvage. Je suis parti en vadrouille avec Monseigneur Di Falco à la rencontre de jeunes migrants égarés, âgés de 18 à 19 ans, hyper musclés, pour qu'ils intègrent la chorale paroissiale des jeunes gogo danseurs du Vatican. Une sorte de croisade charitable, si tu veux.
Ah ben c'est bien, vous avez conservé votre dévotion malgré la bonne chair.
Il est grand le mystère de l'emploi.
N'en faites pas trop non plus.
Ah, oh, désolé, mais j'en fais pas trop, Daniel. T'as entendu notre prochain président, Saint-François Fillon? Il a dit qu'il est gaulliste et chrétien. Il n'est pas en campagne, il est en croisade.
Oh mon Dieu. Vous croyez que ça craint pour Nagui?
Mais pourquoi est-ce que ça craindrait pour Nagui?
Enfin, regardez-le, il est arabe.
Oui, mais non, il risque rien. Il est riche. Et en France, quand t'es riche, t'es considéré comme un arabe fréquentable.
Ah, voilà.
Oui, mais bon, on sait jamais.
Ah, mais si Nagui est dans le tourment, bien entendu, il pourra trouver refuge dans ma camionnette qui est ouverte à tous, mais si, même aux sarrasins.
Très bien, j'en prends note, je communiquerai. Vous avez pris quoi comme bonne résolution, mon père, pour 2017?
Baiser plus.
Quoi?
Mais non, je plaisante.
Oh, ouf.
Oh, tu le sais bien, nous les hommes d'église, nous ne forniquons pas. Non. On chahute entre nous. Mais ce n'est pas dans un but concupiscent. Alors oui, il arrive que sous la douche, il y a un dérapage et qu'une main taquine se perde par-ci, par-là. Mais rien de bien méchant. Alors oui, pour pimenter nos douches, il arrive qu'un d'entre nous se déguise en pompier, fasse du bouche à bouche à tout le monde. Mais c'est pour blaguer. Alors oui, il arrive que tout nu dans le jacuzzi, on fasse la chenille, mais ça reste chasse. Alors oui, il arrive qu'on prenne du papier, c'est qu'on...
Oui, c'est bon, arrête, je sens que ça va déborder. Enfin, quand même, mon père, il n'y a pas de quoi être fier.
Il est grand le mystère de l'enfant.
Non, mais taisez-vous, sinon à part ça, vous avez des projets?
Absolument. Dans moins d'une heure, je pars pour Las Vegas, au CES.
Le quoi?
Le CES, Consumer Electronic Show, le salon géant des nouveautés technologiques.
Mais quoi faire?
Ben, je suis invité pour parler de mon appli.
Votre appli? Quelle appli?
Mon appli camionnette virtuelle. C'est une appli que tu installes sur ton smartphone.
Smartphone?
Ben, c'est ce que j'ai dit. Puis tu installes le tout dans un casque de réalité virtuelle et comme par magie, tu es plongé dans l'univers de ma camionnette et de ses multiples délicieuses attractions. Il y a la possibilité de s'immerger dans le monde merveilleux de ma camionnette, j'en bafouille, ma camionnette, tout seul ou à plusieurs.
Mais vous avez mis ça au point tout seul?
Non, bien sûr. Pour les prises de vue, j'ai demandé son aide à un ami vidéaste, Jean-Marc Morandini.
Ah bah, ça doit être coton comme ambiance.
Coton, non. Plutôt latex.
Merci mon père, ravi de voir, vous êtes en pleine forme et plein d'idées nouvelles pour 2017. À demain.
Bravo. Merci Albert, merci David.
France Inter.
Leïla Slimani fait partie des 10 auteurs de Paris des femmes. Ça sera au théâtre des Mathurins ce week-end 6, 7 et 8 janvier. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de trophée, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de jury, il n'y a pas de. C'est juste
le plaisir
de partager.
C'est le plaisir et la liberté.
Vous avez été payé quand même.
Non, même pas.
Mais non. Miss Scandale sera élue à ce moment-là.
Chanson douce et son roman qui a reçu le prix Goncourt. Vous vous souvenez encore du jour, du moment
où
vous avez
appris?
Vous étiez où quand on vous a dit
J'étais rue des Abbesses, en train de prendre
un café.
J'étais en train de prendre un café devant l'église de la rue des Abbesses, qui faisait très très beau ce jour-là pour un 3 novembre.
Donc on n'est pas loin du vrai Paris.
Voilà, et exactement. Et donc on m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je prenne un taxi pour me rendre chez Drouan.
C'est voilà. Plutôt une bonne nouvelle.
Oui, plutôt, ouais.
Et là, qu'est-ce qui se passe? On a un petit pincement au cœur, on a la chair de poule. Dans le taxi, vous appelez papa, maman en disant...
Déjà, ça faisait 24 heures que j'étais quand même dans un état un peu, un peu spécial, puisqu'on n'était plus que 4. Donc, c'était possible. Ça se rapprochait sensiblement. Donc, j'ai passé une nuit très calme. Je pensais que je n'allais pas dormir de la nuit, mais j'ai très, très bien dormi. Mon mari, ça l'a énormément choqué, parce que lui, il n'a pratiquement pas dormi. Il est rentré dans ma chambre. Et qui m'a dit, t'étais comme ça, en train de dormir. Et moi, j'étais pâle, je me sentais mal, je voulais partager mes angoisses. T'as-tu ronflé? Donc, ça s'est très bien passé. Et puis, le matin, je me suis levée, je me suis acheté une robe en me disant, de toute façon, elle servira. Parce que si je l'ai, je la mets. Et si je l'ai pas, ça me consolera. Donc, c'était une très bonne excuse pour m'acheter une robe que j'avais pas les moyens de m'acheter. Et puis, après, on m'a appelé. C'est les gens de Gallimard qui m'ont appelé en me disant, oui, il faut que tu prennes un taxi, puis il faut que tu viennes chez Gallimard. Je dis, ah bon, pourquoi? Je dis, non, mais fais pas l'idiote, prends ton taxi.
On veut te consoler.
Voilà, et puis j'ai appelé ma mère, qui pour la première fois, parce que bon, j'appelle tout le temps ma mère et tout, mais qui pour la première fois était sur répondeur. Alors là, j'ai dit, non, mais franchement, le jour où je suis finaliste du Goncourt, à 12h30, je l'appelle pour lui dire que j'ai eu le prix et elle est sur répondeur. Mais comment c'est possible? Elle n'a rien à faire de moi. Donc j'appelle sur le fixe chez moi au Maroc, je tombe sur mon beau-père qui me dit, non, mais elle fait des courses. Je lui dis, mais comment ça, elle fait des courses? Elle devrait être assise en train d'attendre que je l'appelle. Et en fait, elle était dans l'avion. Parce qu'elle avait eu le pressentiment, ou je sais pas quoi, elle avait pris l'avion de Rabat le matin même.
Pour venir me rejoindre.
Et en fait, 10 minutes après, elle m'a appelé, elle était à l'aéroport, et elle m'a dit, je suis sûre que ça a marché.
Elle a fait comme vous avec la robe.
Voilà.
De toute façon, si elle l'a, je serais venue pour une bonne raison. Et si elle l'a pas,
je vais la consoler. Voilà. Et puis voilà.
Le sexe est au rendez-vous de votre prochain roman.
Sans transition.
Je crois que c'est l'invité de la semaine prochaine.
Un peu de respect, mais ne pas être sa mère. Alors, tu sais que dans cette culture-là, on a.
C'est un métier, l'enchaînement.
Et justement, ce roman porte là-dessus, sur le fait qu'on ne puisse pas vraiment en parler. Sexe et mensonge, hein, c'est le titre que vous...
Oui, c'est un essai, en fait. C'est un essai, donc c'est une suite d'entretiens avec des femmes. Et puis, je raconte aussi la situation au Maroc aujourd'hui autour des questions liées à la sexualité, puisque dans ces dernières années, il y a quand même eu beaucoup de scandales de mœurs au Maroc. Alors, le scandale en France le plus connu, c'est celui autour du film Much Loved, par exemple. Mais il y a eu également des affaires comme l'affaire Amina Filali, qui est cette jeune femme qui s'est suicidée quand on l'a obligée à se marier avec son violeur. Il y a eu le débat sur l'avortement. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de choses au Maroc.
L'homosexualité qui est toujours
illégale. Les questions autour de l'homosexualité. Cette affaire de Benny Mellel, où deux hommes ont été agressés pour homosexualité et emprisonnés juste après leur agression parce qu'ils étaient homosexuels. Donc je reviens sur tous ces scandales-là et je parle ensuite avec des femmes qui me racontent, elles, leur vie quotidienne autour de la sexualité, autour de leur intimité. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme au Maroc aujourd'hui?
Et vous avez déjà commencé à travailler sur un nouveau roman?
J'ai pas encore commencé à travailler, c'est-à-dire que je me suis pas encore mise à mon bureau, j'ai pas encore commencé à écrire.
Mais
je
vous
commence
savez dans
à,
quel
voilà.
univers vous voulez que ça évolue?
Oui, je sais à peu près dans quel univers. Et voilà.
Et voilà.
Non, mais vous savez, je pense qu'il y a un truc qui est très vrai, c'est que quand on commence à parler d'un roman, c'est qu'on l'écrira pas. Quand on commence à raconter l'histoire,
racontez-le et n'écrivez pas.
Non, non, je vais préférer l'autre option parce que c'est plus arrangeant pour moi de l'écrire et de pas en parler.
Ok, d'accord. Bon, voilà. J'aurais essayé.
Ça s'est fait.
Bien tenté.
Même pas le titre.
Je l'ai pas le titre pour le coup.
Bon, la fin alors.
Il aurait pu être flic. Hein.
Non, très mauvais, t'as vu, j'ai rien obtenu. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boutadi.
Leïla, chère Leïla, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous.
Vie, Je tue, j'exerce le pouvoir délirant du destructeur auprès de quoi celui du créateur paraît une singerie. C'est cela le bonheur.
C'est un extrait de Caligula.
Caligula.
Caligula. Mise en scène. La comédie française.
Dracula.
En 92 par Youssef Chahine.
Quelle merveille.
Et ouais. Caligula que votre mère aurait fait lire
à mon fils,
à votre
de,
fils
six
de 6 ans.
Mais non. Qui m'a dit, mais tu peux pas me montrer une photo de Caligula parce que mamie elle me montre que des statues et moi j'ai pas réussi à trouver la photo de Caligula, donc je sais pas pourquoi elle lui a fait lire ça. Oui, c'est marrant,
c'est une drôle d'histoire quand même. Tout d'un coup elle se dit tiens,
mais non, mais elle s'est Caligula. Dit les empereurs romains ça ouais. va l'intéresser, donc ils ont commencé avec Néron puis après Caligula, et donc il a lu Caligula
et que des gens normaux,
mais il adore hein, ça l'intéresse beaucoup.
C'est aussi une façon de dire que l'histoire de la transmission et de je te raconte une histoire, ça continue même avec l'autre génération.
Ah oui, complètement. On parle énormément. Moi, je lui raconte tout. Il n'y a aucun tabou, aucune limite. Donc, parfois, je suis un peu gênée quand lui divulgue ce que je lui raconte à d'autres personnes, voilà, notamment à l'école. Mais on se rend compte que finalement, un enfant de 6 ans, il est capable de comprendre énormément de choses, d'être touché et ému par énormément de choses. Et c'est grisant.
Et quel est le bouquin qui vous, enfin, alors on a parlé des Mille et Une Nuits, mais du bouquin que vous lui lisez le plus régulièrement, un bouquin jeunesse, un conte, une histoire, qu'est-ce qui revient le plus fréquemment?
Moi, il y a un livre que ma grand-mère m'a beaucoup lu et que du coup je lis à mon fils, c'est Les Aventures de Nils Holgersson que ma grand-mère me lisait. Donc c'est un livre écrit par Selma Lagerlöf qui, je crois, est la première femme à avoir eu le prix Nobel de littérature. C'est une Suédoise et ce sont les aventures de ce petit garçon qui est très désobéissant, très insolent, qui ne fait que des bêtises, donc dans lequel mon fils peut vraiment beaucoup s'identifier.
Tous les enfants.
Je lui raconte cette histoire. Histoire qui est très très jolie, l'histoire d'un voyage sur le dos d'une oie.
Ok, on poursuit avec un autre son pour vous, Leïla.
Il est évident que quand on est dans un pays comme le Maroc, être cinéaste, c'est parfois aussi un peu bousculer une certaine forme de consensus. Et je crois qu'on a ce devoir-là. Je ne pourrais pas parler en termes d'avant-gardisme parce que ce serait un petit peu prétentieux, mais c'est vrai qu'on accompagne un mouvement. Et il y a une dynamique aujourd'hui au Maroc qui est juste exceptionnelle. Donc la parole est dite et nous autres artistes avons le droit de nous en emparer et de la façonner à notre manière et de la livré. Et ça, je pense que c'est quasiment une exception dans le monde arabe aujourd'hui.
Vous l'avez reconnu, Leïla?
Oui. C'est Nargis Nejjal, ma très grande amie, réalisatrice marocaine de grand talent.
Vous avez joué en 2006 dans son film Wake Up Morocco. Vous avez été tentée un temps par le cinéma, par le jeu. Je crois que vous avez fait les cours Florent.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et par l'écriture aussi. Alors, c'en est où? Le jeu et l'écriture.
Alors l'écriture directement pour le cinéma.
Ouais. Je pense que je le ferai. Oui, c'est un projet qui est là, qui continue à exister. Nargis que j'ai rencontré il y a maintenant assez longtemps, j'avais 20 ans peut-être quand j'ai rencontré Nargis, m'a dit très rapidement, tu verras un jour tu réaliseras un film, et je pense qu'elle a raison, que j'écrirai un jour un film, je le réaliserai, mais c'est un projet plutôt long cours quoi, c'est quelque chose que je ferai plus tard.
Et la comédie, vous avez déclaré que vous étiez une comédienne médiocre.
ça s'est arrêté définitivement, c'est irréversible.
Vraiment?
Ouais, je pense, oui.
La question s'est posée sur Chanson douce, de savoir si vous le réaliseriez ou pas.
Non, parce que moi je savais que je ne voulais pas. Je pense que si je réalisais un film, j'écrirais directement un film. Pour moi, la littérature, c'est un tout autre domaine. Je me suis vraiment, j'ai adoré écrire ce roman, mais pour moi c'est un roman. Je ne peux pas aujourd'hui le faire vivre autrement.
On entend souvent les auteurs dire qu'une adaptation d'un roman au cinéma, c'est une forme de trahison. Vous le présentez déjà un peu comme ça?
Mais ça peut être une belle trahison. Enfin, oui, c'est une trahison dans le sens où on peut dire par exemple qu'une traduction est une trahison. Enfin, dès qu'on vous prend d'une certaine façon votre histoire, on la trahit, mais même la lecture est une trahison. Dans ce cas, on peut penser que le lecteur...
Oui, parce que chacun l'interprète à sa manière.
Donc c'est beau d'être trahi quand on est un artiste.
Et pour revenir au propos de Nargis Nejjal, donc cette réalisatrice qui est votre amie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle tient des propos très féministes et qu'il y a peut-être quelque chose à dire sur le féminisme qui vient aussi du Maghreb, qui se bat aussi contre l'orientalisme, la tentation de la féministe occidentale de considérer que la femme maghrébine est une femme à qui il faut tout apporter et qui n'est pas capable de se battre avec ses propres armes.
Totalement, totalement. Et puis, on occulte complètement l'histoire du féminisme arabe, parce que c'est une histoire passionnante, très très vivante. Il faut quand même savoir qu'au moment des indépendances, au moment de la lutte contre la colonisation, il y a énormément de femmes qui vont être présentes, qui vont se dévoiler, que ce soit au Caire, que ce soit à Rabat, que ce soit à Alger, des femmes qui vont être sur le devant de la scène, des femmes parfois communistes, militantes de gauche ou pas, activiste, ou simplement militantes pour la cause des femmes, et se rendre compte aussi que les mouvements nationalistes arabes se sont ensuite alliés un petit peu avec les frères musulmans et ont fait notamment une alliance sur le dos de qui ? Sur le dos des femmes.
Mais c'est ça qui
en
est grave.
Disant,
hein,
non, voilà, mais en disant, voyez, les colons, ils nous ont tout pris, ils nous ont pris notre honneur et tout, on va quand même pas laisser les femmes maintenant être libres parce qu'on va reprendre un peu en main ce pays culturellement et patriarcalement, et les femmes ont perdu, ont
double
tout perdu,
victime,
voilà, ont été des doubles victimes dans ce combat-là. Mais il faut pas oublier toutes ces militantes féministes, toutes ces écrivaines, toutes ces sociologues, toutes ces professeurs de fac qui se battent au jour le jour pour pouvoir voilà, libérer la femme arabe sans être dans une vision colonialiste où on aurait besoin voilà, des femmes blanches pour venir libérer les femmes arabes.
C'était important de l'entendre dire et je vous offre pour terminer un petit cadeau, c'est le tour de la question.
Pas une robe.
Alors j'ai pas pensé à la robe, hein, et là on s'arrangera plus tard, on va trouver quelque chose.
Et surtout qu'en ce moment il faut trouver une taille un peu...
On va trouver un truc un peu fluide.
Voilà, c'est ça.
Voilà, qui va...
J'ai là-bas.
Qui va... Je voulais pas le dire comme ça, mais qui pourrait marcher pour les trois prochains mois. C'est comme ça, il n'y a pas de problème de taille, on n'en parle plus. Là, c'est un bouquin dans la collection Le Tour de la Question, Chronique Édition, sur l'enfer et le paradis. Donc c'est un livre double, d'un côté l'enfer, de l'autre côté le paradis.
Ah, génial.
À travers la représentation iconographique, religieuse, et à travers les évolutions ensuite contemporaines de ces deux thématiques. Et je me dis que pour une écrivaine comme
je vous présente par le paradis d'abord.
Voilà, par le paradis, ça peut être une source d'inspiration. Il y a des personnages diaboliques, angéliques ou un petit peu entre les deux.
Ça a changé quoi, Chanson douce, du moins le prix Goncourt pour vous, c'est-à-dire le regard de certaines personnes, les critiques, les papiers que vous avez, j'imagine, lus sur votre travail, des propositions qu'on vous a faites et que vous n'imaginiez pas avant?
Oui, ça a changé des choses dans le sens où j'ai reçu un nombre de sollicitations auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Alors
des nouveaux amis.
Plein de nouveaux amis, des gens qui avaient totalement disparu de ma vie, de mon univers, qui se sont rappelés à mon bon souvenir, en me disant mais on devrait prendre un café, ça fait tellement longtemps. Ouais, mais pourquoi tu veux qu'on prenne un café?
Il va être froid. Voilà. Il va être froid depuis le temps.
Des gens qui, à l'inverse, vous les avez pas rappelés dans les 24 heures, vous envoient un texte en disant bah j'étais sûre que t'allais changer. Vraiment, tu te la pètes. Non, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de te rappeler.
Oui,
donc, parfois, des réactions comme ça un peu
là
épidermiques.
Encore une galerie de portraits intéressante.
Ouais,
ouais,
analyser. C'est assez marrant.
Les ex,
non, ils se sont pas tellement manifestés. Les ex, ça a dû un peu les. Je sais pas.
Les calmer.
Et on lance un appel.
Non, laisse-la tranquille, elle est enceinte, ça tranquille.
Et alors,
tout va bien.
Ça n'empêche pas d'avoir une sexualité d'être enceinte.
Heureusement pas. Non,
bon, je veux dire,
mais non, pas avec les ex.
Oh bah, je sais pas.
Tu vois, c'est la limite.
C'est
total. Non, mais c'est les limites du féminisme de Leïla.
Ouais, c'est ça.
Mais non, c'est du féminisme, au contraire. Leïla ne contredira pas, je
sais.
Pas là-dessus.
Des excuses à présenter, Daniel.
Ah, désolé pour tous les machos qui sont autour de cette table et qui, contrairement à moi, ont subi cette émission. Honte à vous, bande de salauds rétrogrades. Vive le féminisme, vive les femmes. J'y crois pas que je viens de dire ça. Désolé pour tous nos auditeurs qui, en entendant plusieurs fois le mot vagin, ont cru que Pierre-Emmanuel Barré allait revenir faire une chronique aujourd'hui. C'était Leïla Slimani, prix Goncourt 2016. Ça a quand même une autre gueule. Désolé pour tous nos auditeurs racistes qui, selon mes sources, n'ont que très très peu apprécié notre émission du jour, plus proche de Radio Orient que de Radio Courtoisie. Promis, demain on fait un effort, on reçoit Balkany, Pef. Ménard
non.
Et Zemmour.
Non, sûrement pas. Tout crevé. Pef sera notre invité demain. Ça s'est entendu, mais c'est pas passé longtemps.
Non, tu penses très fort.
Mais elle t'imite super bien, Alison.
Merci mille fois, Leïla Slimani.
Oui, merci à vous.
Portez-vous
merci
bien
beaucoup.
Et que cette année 2007 soit, voilà,
Ramsa. Merci, Ramsa
5. Philippe Bertrand pour les
je
carnets de campagne.
Oui. Salut, Nagui. Salut, d'abord. On a entendu ton commentaire, Nagui. C'est génial.
Ouais, tant mieux.
C'est bien le cri du cœur. et quelle chance vous avez. Bonjour, les Leïla. Aujourd'hui, c'est rare de pouvoir dire les Leïla. Concours de charme et d'intelligence.
Merci.
Je suis en train de dire la chanson douce. Non, Daniel, je t'en prie.
Ah, pardon.
Merci.
Bonne émission, Philippe.
Salut les amis.
Salut, ciao, ciao. Philippe.
Sur France 3.